Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Nous nous présentons ensemble devant ce Dieu qui nous appelle avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français. Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur. Ô Éternel, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Quand je regarde ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui et l'enfant pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, le couronnant de gloire et de magnificence. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Ô Éternel, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. C'est ce psaume 8 dont je viens de vous lire un extrait que je vous propose de chanter maintenant dans le psautier français. Psaume 8, ton nom Seigneur est un nom magnifique. Les quatre premières strophes du psaume 8. Vous pouvez prendre place. Bienvenue à chacune et à chacun qui avait bravé le sommeil, le froid, pour que nous ayons la chance d'être ainsi ensemble, pour nous ouvrir au trésor de bonté, de vie qu'il y a en Dieu. Bienvenue au professeur Hubert Bost qui nous donnera la prédication tout à l'heure. Alors c'est personnellement avec impatience que j'attends toujours ta venue, Hubert, tu le sais. Et puis bienvenue à la petite Alice Sénaf Loigereau qui va être baptisée, bienvenue à toute sa famille et à ceux qui l'accompagnent, en particulier bienvenue à ceux qui sont catholiques ou orthodoxes ou musulmans, car Donc une partie de la famille vient d'Éthiopie où il y a ces confessions et ces religions qui existent. Et donc c'est une joie, un honneur de vous avoir, vous tous, ce matin parmi nous pour ce temps de baptême. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son aide pour que nous puissions avancer sur ce chemin. Et donc je vous propose de suivre du cœur cette prière du prophète Jonas. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. J'étais dans l'abîme, les courants d'eau m'avaient englouti. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais non, je verrai encore et encore ta présence. Les eaux m'ont recouvert jusque m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma gorge, et je suis descendu ainsi jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, ô Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, me détachant enfin des idoles qui me fermaient à ta tendresse. Je t'offrirai des gestes vrais avec un cri d'action de grâce, car le salut vient de l'Éternel. Amen. Mais voici ce que déclare l'Éternel à chacune et à chacun d'entre nous. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et moi, l'Éternel ton Dieu, je te consolerai comme une mère console son enfant bien-aimé. Et en Christ, l'Éternel se penche vers nous et nous dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Je crois en un seul Dieu, notre Père, le Créateur. Il a pour chacune et chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère, qui est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il vient à nous, il nous aime, il nous guérit et nous sauve. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme un don gratuit. L'Esprit appelle notre foi et il fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Seigneur, augmente jour après jour la confiance que nous avons en toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alice Sénaf, petite fille, bienvenue dans la vie, bienvenue dans ce monde magnifique qui nous a été confié par Dieu. Tu es entourée de tes parents, Anthony et Suzy, de tes grands-parents français, de ta grand-mère éthiopienne. Et en ce moment, nous voulons avoir une pensée toute particulière pour ton grand-père qui est retenu en Éthiopie et qui t'a donné ce deuxième prénom, Sénaf, qui signifie « pour l'histoire, pour la mémoire ». Alors c'est vrai que le baptême de bébé manifeste vraiment l'amour que Dieu a pour nous, en particulier avant même que nous ayons conscience de l'existence de Dieu. Et donc ceux qui sont baptisés adultes sont aussi au bénéfice de ce baptême des nouveau-nés, car il signifie qu'avant même, finalement, que nous puissions confesser notre foi, eh bien l'amour de Dieu nous est donné. Alors c'est vrai que le baptême d'adultes, il associe cet amour de Dieu qui est donné, et puis une profession de foi personnelle. S'il n'y avait que le baptême d'adulte, peut-être qu'on pourrait croire que quand la confession de foi n'est pas tout à fait assez sincère, assez profonde, assez réfléchie, peut-être que cet amour de Dieu pourrait vaciller, mais non. Le baptême d'Alice Sénaf rappelle à chacune et à chacun que quoi que nous fassions, nous sommes aimés par Dieu et que notre liberté, c'est de répondre à cet amour de la façon dont nous l'entendons. Alors vous tous, l'Église vous accueille avec joie. L'Église au sens large, l'oratoire du Louvre, et c'est pour nous un privilège de vous accueillir, mais aussi la large communauté de tous ceux qui cherchent Dieu en Jésus-Christ. Que ce soit ici même à Paris, dans différentes églises, en Éthiopie, dans des églises, et c'est ainsi unis, tous ensemble, chrétiens, que nous vous accueillons, vous et puis Alice, Sénaf, dans cette grande famille des chrétiens. Le baptême, c'est le signe de cette grâce de Dieu sur Alice Sénaf en particulier, et par le baptême, nous l'accueillons avec joie dans cette église. Ainsi parle le Seigneur, « Je vous recueillerai d'entre les nations, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tout ce qui est négatif dans votre existence. » Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Avant que nous le cherchions, Dieu est déjà près de nous. Avant que nous puissions lui répondre, déjà il nous appelle par notre nom, celui d'enfant bien-aimé. Le baptême est le signe de ce Dieu qui, en Jésus-Christ, vient à notre rencontre. Nous rendons grâce à Dieu. C'est notre joie et notre salut de t'adorer, ô Dieu. C'est toi qui viens vers nous pour nous donner ta présence et tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, ton Fils, et pour la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée, bonne nouvelle de ta grâce, de ton amour et de ta lumière que tu offres gratuitement et sans condition à toute personne. Aujourd'hui, nous te présentons Alice Sénaf pour qu'elle soit marquée du signe de cette grâce, de cet amour et de cette lumière. Et pour tout cela, nous te célébrons. Amen. Alors, à la fin de l'Évangile selon Matthieu, il y a des paroles qui disent l'institution du baptême par Jésus-Christ. Jésus dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné, et voici, dit Jésus-Christ, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse, elle est en particulier pour Alice Sénaf. Alors autrefois, on plongeait le baptisé tout entier dans l'eau et puis il se dressait comme s'il était ressuscité. On lui mettait une robe blanche et on lui donnait un nom nouveau pour indiquer que Dieu lui donnait une dimension nouvelle à son existence. Alice Sénaf, nous t'accompagnons sur ce chemin de la foi. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit, comme l'eau tombant sur le sol desséché fait germer la plante et lui fait porter du fruit, ainsi le Saint-Esprit fait jaillir en l'être humain une vie nouvelle, une vie ouverte à Dieu et ouverte aux autres, avec au lieu de l'incrédulité, la foi, au lieu de la résignation, l'espérance, au lieu de l'égoïsme, l'amour. Dieu veut pour toi cette vie accomplie, c'est ta vocation, qu'elle soit aussi ta joie et ta paix. Ce que le baptême annonce, c'est l'Esprit qui l'accomplit. Cette parole prononcée aujourd'hui sur Alice Sénaf, c'est par la foi qu'il faut la saisir. « Tu es mon enfant bien-aimé » ne cessera de répéter ce baptême jusqu'au jour où Alice pourra à son tour répondre « Tu es mon Dieu et mon Père ». Ainsi donc, parents, marraines, et puis vous tous, là, qui formez la communauté chrétienne, vous êtes un peu là pour guider, pour aider Alice Sénaf à grandir dans la foi, pour l'accueillir dans cette grande famille des chrétiens, sa famille spirituelle. Mais aucune contrainte ne retiendra Alice dans cette famille. Si jamais elle venait à se séparer de l'Église chrétienne, sa place y resterait toujours marquée, toujours prête pour la recevoir. Pour répondre à la bonté de Dieu qui l'accueille dans son alliance, vous resterez pour elle un exemple et un appui. Vous prierez pour elle, vous l'instruirez, vous la soutiendrez, vous l'aimerez, afin qu'elle puisse parvenir à la foi, qu'elle puisse répondre un jour, si elle le désire, en toute liberté, à la grâce attestée par son baptême, en confessant sa foi et en prenant part à la vie de l'Église. Donc je vous propose de vous réunir autour de ce baptistère. Alice Sénaf, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alice Sénaf, le Seigneur tourne son visage vers toi, il fait briller sur toi sa lumière et te donne sa joie. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, dit le Seigneur, mon amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Alice Sénaf, bienvenue dans la vie, bienvenue dans cette communauté chrétienne. Nous avons grande joie à t'accueillir dans cette famille. Et c'est pour nous, oui, vraiment, un témoignage de vous avoir parmi nous ce matin. Alors, en cohérence avec ce baptême, mais c'est plus des paroles qui viennent dire que le baptême est un commencement, un début, une piste. Vous pouvez prendre ces engagements que l'Église vous propose en cohérence avec ce baptême. Vous voulez faire connaître à Alice Sénaf l'enseignement de Jésus-Christ, contenu dans la Bible, pour qu'elle puisse fonder son assurance sur la grâce de Dieu, grâce qui est attestée par son baptême, et devenir, si elle le désire un jour, une disciple de Jésus-Christ. Vous la confierez à l'Église afin qu'elle la prépare avec vous à confesser la foi de l'Église universelle qui est résumée dans ces quelques mots, Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce là ce que vous voulez ? Dieu vous donnera la force et la joie de tenir votre promesse. Alors vous avez choisi de dire une prière tous les deux, Anthony, Suzy, pour confier à Dieu votre adorable fillette, et puis aussi bien pour vous confier à Dieu dans cette mission incroyable d'être parent.
Père,
nous te disons notre joie
et notre reconnaissance pour Alice Senaf,
qui vient de recevoir le signe de ta grâce.
Nous te prions pour elle
et pour sa famille.
Donne à ses parents
et à tous ceux qui auront
à prendre soin d'elle,
de lui révéler ton amour
et de la préparer à te servir un jour
dans la reconnaissance et dans la joie.
Nous te remercions pour notre propre baptême
et pour la fidélité de ton amour. Amen.
Amen.
Un grand merci à tous les trois, à toute la famille. Et dans un geste de bénédiction pour Alice Senaf, je vous propose de prendre dans Louange et prière le numéro 204. Seigneur, dirige et sanctifie, malgré le soumet son âme à l'Évangile. Il ne s'agit pas de soumission, de formater son âme dans le moule de l'Évangile, mais il s'agit que l'Évangile, la foi, l'espérance et l'amour irriguent, emplissent, vivifient nos âmes tout entières. Seigneur, dirige et sanctifie.
Je vous propose ce matin la lecture de trois passages de l'évangile de Matthieu. Les deux premiers se trouvent dans le sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne peignent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera brûlée, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Un peu plus loin, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt pour celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Est-ce que l'on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre, indépendamment de la volonté de votre Père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux que tous les moineaux. Et encore un peu plus loin, cette histoire descendue de la montagne, comme Jésus revenait de la ville de bon matin, il eut faim. Il vit un figuier près du chemin et s'en approcha et n'y trouva que des feuilles. Il lui dit « Jamais plus tu ne porteras de fruits ». À l'instant même, le figuier sécha. Voyant cela, les disciples furent saisis d'étonnement. « Comment, dirent-ils, à l'instant, le figuier a-t-il séché ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se fera. Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Avant de prier, je vous invite à chanter au cantique 193 du Louange et Prière, les strophes 1, 2 et 3.
Parle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je le suis. Je le suis, je veux l'être et marcher dans ta route et les jours et les nuits. Donne-moi ton esprit que je puisse comprendre. Ce corps donne de moi tes saintes volontés et réduis mes désirs au seul désir d'entendre tes hautes vérités. Parle, parle, ô mon Dieu. Serviteur fidèle, pour écouter.
Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu nous as rassemblés ce matin dans ta joie, dans le plaisir des retrouvailles, dans l'espérance pour Alice Sénaf, pour ses parents, pour toute la communauté que tu as rassemblée. Ouvre à présent nos cœurs et nos esprits. Renforce nos intelligences pour qu'à travers ta parole, nous soit adressée de ta part une parole. À chacune et à chacun de nous, parle. Aide-nous, dirige-nous, ouvre-nous à ta vérité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ qui pour nous a incarné cette vérité. Amen. Sur les abribus de Paris fleurissent ces derniers jours les affiches publicitaires d'un établissement bancaire. Vous savez, celui qui a pris pour symbole un petit rongeur grimpeur à queue en panache et amateur de noisettes. Des affiches où on nous propose la définition de mots simples par des équivalents, par des synonymes. L'une de ces affiches indique prévoyance, NF, non féminin, tranquillité d'esprit. Elle a peut-être retenu mon attention à cause de la question qu'un étudiant m'avait posée quelques jours plus tôt au sujet de la providence. Dans ma réponse, j'avais rappelé que d'un point de vue étymologique, providence et prévoyance signifiaient la même chose. Providere, prévoir. Le rapprochement était amusant entre l'affiche « Prévoyance, tranquillité d'esprit » et cette question sur la providence. Amusant, mais pas évident. Qu'en pensez-vous ? Que donnerait un petit détournement théologique si l'on substituait un mot à l'autre dans cette définition ? Pourrions-nous dire « Providence, non féminin » tranquillité d'esprit. Ça n'est pas vraiment la définition de la providence qui nous vient spontanément à l'esprit. Or, c'est bien pourtant ce que Matthieu semble affirmer et même marteler dans ce passage du Sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez ni de ce que vous mangerez et boirez. Ne vous préoccupez pas de savoir comment vous vous habillerez, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas, Dieu s'en occupe. Dieu a tout prévu. S'il s'occupe de nourrir les petits oiseaux et de rendre belles les fleurs des champs, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous ? Providence divine. Oui, mais alors, si c'est vrai c'est exactement le contraire de la publicité. La prévoyance qu'aimerait me vendre l'écureuil n'est-elle pas le contraire de la providence qui protège les oiseaux insouciants? L'un amasse frénétiquement des noisettes et s'inquiète aujourd'hui pour être tranquille demain. Les autres picorent au petit bonheur, confiants, sans penser à demain. Confiant ou inconscient? Le message du texte, la sagesse qu'il propose, est-ce de vivre au jour le jour? Une sorte de carpe diem évangélique, en quelque sorte. Après tout, pourquoi pas? Le vœu de pauvreté des moines, pendant des siècles, ne consistait-il pas à renoncer aux biens matériels pour cultiver la liberté spirituelle? Oui, mais peut-on vraiment habiter ce monde sans reconnaître responsable, sans assumer pour nous et pour nos proches, pour la communauté humaine à laquelle nous appartenons, les charges qui nous en incombent? Vraiment, avec toute l'affection qu'on peut avoir pour les moines ou pour les moineaux, est-ce cela dont il s'agit? Pour démêler tout cela, cherchons un sens que peut avoir pour nous, comme croyants ou comme chercheurs de sens, cette exhortation à ne pas s'inquiéter. Arrêtons-nous ensuite à l'idée de providence, dont nous chercherons à définir le périmètre. Oui, le périmètre, pour l'empêcher de déborder. Et nous verrons enfin que si une providence délimitée nous fait peut-être perdre beaucoup de pouvoir, de savoir prétendu ou d'assurance, mais aussi bien des illusions, cette providence délimitée nous fait gagner une extraordinaire liberté, une liberté humble mais tenace, modeste mais indéracinable. Et d'abord, quittons l'animalerie. Mon point de départ risque en effet de nous faire croire que l'Évangile prend le parti des petits oiseaux contre celui des écureuils, ou, si l'on veut changer avec la fable, des cigales contre les fourmis. Or, pas un instant Jésus n'incite ses auditeurs à se prendre pour des petits oiseaux ou pour des fleurs. Ce que vise sa comparaison, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Dieu attentionné au point de prendre soin des plus petites créatures. Autrement dit, arrêtez de vous mettre à sa place. Vous vous rappelez cette chanson de Jacques Brel, « Moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords. » Qui n'a jamais envisagé de se mettre à la place de Dieu? De dire « Si j'étais Dieu, je m'y prendrais autrement. » Arrêtons-nous de nous prendre pour lui. Jésus n'est pas en train de nous donner une clé pour sortir de la crise, pour régler les grands problèmes de l'humanité, un remède miracle pour l'écologie ou l'économie, pour la justice sociale et les droits de l'homme, des critères pour connaître le meilleur programme de politique. Tout cela a certes de l'importance. Et nous sommes, encore une fois, collectivement responsables de ce monde. À ces sujets, j'ajouterai, peut-être cela paraîtra-t-il paradoxal, qu'il est compréhensible de s'inquiéter, qu'il est normal de s'inquiéter et qu'on devrait plutôt considérer que c'est de ne pas s'inquiéter qui est inquiétant. Mais dans de tels domaines, ce sont nos intelligences et notre réflexion qui sont requises, non pas notre foi. L'Évangile n'a pas de réponse à cela, même si, à travers l'Évangile, souvent, longtemps, les Églises ont prétendu donner réponse à tout, à toutes les questions. Et l'exhortation à ne pas s'inquiéter n'est pas davantage une recette de coach spirituel permettant à tout un chacun de trouver son équilibre et d'organiser son bonheur personnel, de gérer sainement sa famille, celle de son association, de la communauté à laquelle il appartient. Vous savez, ce fameux lâcher-prise grâce auquel tout irait tellement mieux. Rien, encore une fois, de tout cela n'est indifférent ou méprisable. Bien au contraire. Mais sans polémique, disons tranquillement que l'Évangile se situe ici, sur un autre plan, qu'il n'est pas l'une des sagesses ou l'une des thérapies disponibles sur le marché du fitness mental. Mais alors, que dit l'Évangile ? Quelque chose de très simple et qui pourtant est suffisamment compliqué pour n'être jamais définitivement acquis. Il nous parle ici moins de nous que de Dieu. Il nous décentre. Il dit que si Dieu est celui qui nous donne et qui nous prête vie, oui, il donne et prête, inutile de s'agripper, de se crisper, de chercher à conquérir ce qui est déjà là, offert, disponible. Et ce qui est vrai de l'existence l'est aussi de ce que la théologie appelle le salut. Non seulement la vie est là, mais ma vie, ta vie, le sens de chacune d'entre elles, le sens provient de ce qu'elle est reçue et non maîtrisée. Cesse donc de t'inquiéter, de calculer, de vouloir agripper des choses sur lesquelles tu n'as pas, tu n'auras jamais prise. Cesse de vouloir tout maîtriser pour éprouver ensuite cette mortelle frustration lorsque l'énigme te résiste. Car la vie, notre vie, n'est pas notre propriété et cette prétention à en être les maîtres nous en fait perdre les beautés. Voilà, recadrer simplement l'invitation à ne pas s'inquiéter. Invitation à la fois plus adulte et plus modeste que ce dont nous sommes partis. Plus adulte parce qu'elle n'est en rien un éloge de l'insouciance, parce qu'elle ne prend pas les rêves pour des réalités. Plus modeste parce que limitée, discrète, voire secrète, autrement dit véritablement spirituelle, pas spectaculaire. Spirituelle, j'ose dire ce mot, bien qu'il soit parfois un peu obscène dans notre culture. Sans autre prétention que cette orientation, que cette réorientation de la vie. Alors que vient faire la providence là-dedans ? Eh bien, selon la définition qu'on en choisira, la providence accompagnera cet affranchissement de l'inquiétude ou au contraire nous replongera dans cette inquiétude. La providence, c'est comme le naturel. Chassez-la, elle revient au galop. Ainsi, le mois dernier, le périodique Philosophie Magazine titrait-il « Y a-t-il un pilote dans l'histoire ?» Eh oui, même si Dieu n'est plus la réponse, la question demeure, la question résiste et fait retour. Bon, d'accord, nous avons bien compris que nous-mêmes ne pilotions pas grand-chose, mais alors où allons-nous ? Qui dirige ? On dit que les grands systèmes de croyance n'apportent plus de réponse. On sait que les idéologies du sens de l'histoire ont souvent débouché sur d'effroyables dictatures. On a l'impression que la main invisible du marché mondialisé a la tremblote et que les dirigeants de la planète sont les acteurs perdus d'une histoire de bruit et de fureur. Il est si tentant, Il serait si rassurant de trouver, d'identifier le pilote. Mais quant à nous, pouvons-nous nous contenter de la réponse traditionnelle de la religion chrétienne? N'a-t-elle pas eu, parfois, de quoi faire frémir? Croyons-nous vraiment en un Dieu qui contrôle tout et qui voit tout, qui surveille tout, depuis Caïn espié dans sa tombe à croire Victor Hugo? Croyons-nous en un Deus ordinator qui gérerait et déciderait de tout? Pas vraiment, non. Mais tout de même, cette histoire d'oiseaux et de fleurs, et quelques chapitres plus loin expliquant qu'il ne faut pas craindre ceux qui tuent les corps mais n'atteignent pas les âmes, est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre indépendamment de votre père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez mieux que tous les moineaux. Comment faire? Est-ce que Dieu est le grand ordinateur? Non. Non, ce que dit Jésus n'est pas destiné à faire de lui quelqu'un qui surveille et contrôle tout. Ce que dit Jésus est dit pour nous inviter à nous libérer d'une inquiétude stérile, pas à spéculer sur les limites ou l'absence de limites des capacités de Dieu. Car lorsque nous faisons cela, nous tordons le texte. Nous inventons une toute-puissance folle. Nous projetons de manière hallucinée notre propre mégalomanie. Tout voir, tout savoir, tout prévoir. Quand on y pense, peut-on soutenir que la providence divine, c'est ce qui permet que tout aille bien dans ce monde ou que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, au motif que Dieu piloterait l'histoire? L'histoire du monde et même l'histoire de l'Église n'apporte-t-elle pas un cinglant démenti à cette affirmation massive et pourtant bien légère? Pour en finir avec cette providence fantasme, et fantasme ô combien dangereux, il suffit pourtant de remonter quelques versets plus haut, lorsque Jésus commente les commandements traditionnels de la loi. Il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous avez appris qu'il a été dit que tu aimerais ton prochain et que tu haïrais ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. L'essentiel est là, qui nous immunise contre cette folle providence. Oui, il y a des persécuteurs. Oui, il y a des bons et des méchants, des justes et des injustes. Dans le monde où nous vivons, les uns comme les autres reçoivent le soleil et la pluie, et Dieu n'est pas un grand météorologue qui rendrait justice en faisant la pluie et le beau temps. Alors, pourquoi, lorsque Jésus nous suggère de vivre en faisant confiance à celui qui nous donne et nous prête vie, nous empressons-nous de spéculer, de sortir du texte et de spéculer sur l'étendue de son pouvoir? Pourquoi? Parce que, selon un ressort bien connu de la psychologie humaine, nous sommes prêts à renoncer pour nous-mêmes à cette toute-puissance fantasmatique, pourvue de pouvoir la confier à quelqu'un qui, croyons-nous, pourrait nous en savoir gré. C'est un petit calcul avec attente de retour sur investissement. C'est le calcul du fils aîné de la parabole du fils prodigue. Je reste sagement auprès de papa, un jour je toucherai l'héritage. Or, cette lecture est contredite. Contredite par l'alliance que Dieu a contractée avec nous. Dieu ne fonctionne pas comme cela dans ses relations avec nous. Sans peser sur l'histoire dans un sens déterminé qui empêcherait les hommes d'exercer leur liberté, sans fermer l'histoire à l'inattendu, et surtout sans manifester un tel pouvoir, un pouvoir tel que sa justice s'y exprimerait dès à présent. Voilà comme un Dieu agit, beaucoup plus secrètement, beaucoup plus discrètement. Pour en finir avec cette providence fantasme, il faut se rappeler que Dieu ne s'est pas rendu présent dans notre histoire et dans notre humanité comme un surhomme, mais comme un homme. La crèche et la croix nous rappellent que la foi n'est pas affaire de pouvoir, et moins encore de super-pouvoir. Ne pas s'inquiéter. Renoncer à prétendre maîtriser ce qui, jusqu'au cœur de nos existences, nous est donné sans que nous le possédions. C'est vrai de la vie elle-même et c'est vrai de la foi. La meilleure comparaison, c'est peut-être celle du prénom que chacune et chacun de nous a reçu, le nom de baptême. Nous sommes chacune et chacun personnellement identifiés et reconnus, différent de tous les autres, unique. Nous avons été précédés, désirés, attendus. Alors, bien sûr, il fut un temps où nous pensions que nos parents étaient tout-puissants. Et puis nous avons compris en grandissant que ce qui chez eux était sans borne, ce qui comptait, c'était leur amour et non leur puissance. Que c'était l'attention qu'ils nous avaient portée jour après jour qui nous avait permis de grandir. Pour Dieu, c'est pareil. Dieu est un père, pas un ordinateur. Le Dieu de Jésus-Christ ne brandit pas la foudre. Il envoie son Fils. La foi qui naît de ce simple constat est très différente. Elle est même en contradiction avec celle qui remet à Dieu les clés d'une toute-puissance que nous n'aurons jamais. Il faut donc en finir avec les lectures littérales ou quasi-littérales de certains passages de l'Évangile. J'en prends un autre, celui où Jésus maudit le figuier, passage bizarre d'ailleurs, et où ses disciples s'en étonnent. Il répond, si un jour vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera, tout ce que vous demanderez dans la prière, avec foi, vous le recevrez. Mais la foi qui transporte les montagnes, c'est une façon imagée qu'a Jésus de parler de la confiance inébranlable qui habite les croyants. Or, à l'ère des tractopelles, nous ne pouvons plus prendre cette image au pied de la lettre. Il en va de même pour l'action de Dieu dans l'histoire. Bien sûr, je peux croire qu'il l'a conduite à son but, mais je renonce à faire de cette confiance une certitude de raison. Je ne suis pas capable de le prouver. Je crois, j'espère, mais je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Dans la vie de tous les jours, cela ne fait pas de moi, cela ne fait pas de nous, des femmes et des hommes, supérieurs, mieux équipés pour répondre aux défis du moment. Mais cela fait de nous, intérieurement, des femmes et des hommes libres. Libres parce que nous avons et nous savons que nous avons reçu cette humanité en cadeau. Cadeau partagé du reste, cadeau qui n'est pas exclusivement reçu et compris par les seuls croyants. Le même Jacques Brel, qui se demandait ce qu'il ferait s'il était le bon Dieu, chantait quelques années plus tard « Toi, si t'étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles. Toi, si t'étais le bon Dieu, tu allumerais des balles pour les gueux. Toi, si t'étais le bon Dieu, tu ne serais pas économe de ciel bleu. Mais tu n'es pas le bon Dieu. Toi, tu es beaucoup mieux. Tu es un homme. » Étonnant écho par rapport au psaume 8 que nous avons chanté et entendu tout à l'heure. Je m'arrête là en finissant d'un mot. Quant à la coïncidence de l'affiche prévoyance sur l'abribus, vue quelques jours après la question de l'étudiant sur la providence et ce souvenir récent du titre de Philosophie Magazine « Y a-t-il un pilote dans l'histoire ?» Quant à cette coïncidence, qu'en penser ? Vous comprendrez que je ne me risquerai certainement pas à la qualifier de providentielle. En revanche, pourquoi s'interdire d'y percevoir un de ces sourires complices, un de ces clins d'œil que la vie nous offre ? Le plus souvent, nous marchons les yeux baissés pour voir où nous mettons les pieds. Et puis parfois, nous levons les yeux et il arrive que nous recevions de ces petits cadeaux fugaces qu'il y a plaisir à partager. Que vous souhaitez pour aujourd'hui, sinon cette petite nourriture-là ? Du reste, ne vous inquiétez pas, elle est disponible pour chacune et chacun de vous, chaque jour, comme celle qui vient aux oiseaux. Nous allons prolonger ce moment de méditation et d'engagement avec le chant du cantique 390, les strophes 1, 2 et 3 du cantique 390. Je vous invite à vous lever.
Prenons place. Quelques informations à partager. Tout d'abord sur la sortie que vous pourrez faire après ce culte. Vous pourrez passer par le comptoir librairie pour acheter le dernier numéro d'Art Sacré qui est consacré au protestantisme. Il y a notamment un petit reportage sur votre église chérie. Il y a aussi des éclaireurs qui vont vous vendre quelques douceurs pour prendre les forces nécessaires qui vous permettront d'affronter le froid. Et y a-t-il des gens de la chorale, du chœur de l'oratoire, qui vendraient des places pour le concert à venir ? Non. Alors, nous y reviendrons après. Donc, dans notre calendrier de la semaine, demain à 19h30, a lieu le cours de grec débutant. C'est à la maison presbytérale. Le groupe protestant des artistes qui se réunit ce jour-là ne se réunira pas à l'oratoire comme d'habitude, mais exceptionnellement au Batignolles. Voilà, donc ceux qui font partie du groupe, qu'ils ne viennent pas ici, mais au Batignolles. Le lendemain, mardi, à 14h30, l'étude biblique consacrée à l'évangile selon Jean, c'est à 14h30, en face également. Le lendemain, pour ceux qui ont bien travaillé en grec, ce sera à 16h, le groupe biblique des confirmés. Vendredi, donc à 20h30, a lieu le concert de Brahms, donné par le chœur de l'oratoire. Donc s'il n'y a personne ici, je pense que les places sont disponibles à la FNAC. Et bien sûr, le soir même du concert, vous pouvez acheter des billets. Lendemain, samedi à 18h, cantate de Johann Sebastian Bach. Et notre culte, dimanche prochain, est à 10h30, comme c'est l'usage. Je vous annonce d'ores et déjà que le mercredi suivant, mercredi 20, aura lieu une disputatio. Nous avons de temps en temps une disputatio que nous organisons en commun avec Réforme. Et nous ouvrons en quelque sorte le bal du nouveau débat parlementaire qui va avoir lieu. C'est sur le droit de vote aux étrangers. Et c'est une disputatio, donc une dispute qui aura lieu entre Fanny Dombre-Coste et Étienne Pinte, qui sont deux députés ou anciens députés qui donc auront l'occasion d'aborder cette question. Ce sera présenté par Philippe Godin et animé par Jean-Pierre Rive et Frédéric Casadesu de Réforme. C'est maintenant le moment de l'offrande. Ne vous inquiétez de rien, donc n'en gardez pas. Donnez tout. Est-ce que les oiseaux du ciel en gardent ? Non. Frères et sœurs, nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cet évangile que tu nous as offert, cet évangile qui nous permet de découvrir un sens nouveau pour notre vie, cet évangile qui nous permet de découvrir le soin que tu nous portes, le soin que tu portes à chacun, y compris le plus petit d'entre nous. Aide-nous à discerner dans notre histoire, dans notre quotidien, ces clins d'œil que tu nous adresses, ces situations que tu nous proposes pour que nous allions notre chemin, que nous puissions faire valoir nos talents. Aide-nous aussi à discerner à travers nos inquiétudes légitimes, à travers nos questions, à travers nos doutes, ce frémissement que tu suscites et qui nous permet de trouver les failles au cœur des impasses, de trouver de nouveaux chemins dans une histoire inextricable, de trouver de nouvelles façons d'être, de nouvelles relations entre les hommes et les femmes. Aide-nous à faire histoire et à ne pas être obsédés par les temps à venir, mais à pouvoir faire histoire dès à présent, à pouvoir réinvestir notre présent, à pouvoir le réenchanter par cet évangile qui nous dit à quel point nous sommes capables de certains accomplissements. Fais de nous, de nos églises, des églises pour tous, des églises qui soient décentrées par rapport à elles-mêmes, des églises qui aident tout un chacun à vivre une vie plus conforme à ton espérance. Et nous rassemblons toutes nos intentions de prière dans ces mots que Jésus a enseigné à ses disciples et nous nous levons pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.